musique du monde. Laurence Aloua. Tegui Mfatroré. Musique du monde sur RFI.
Bienvenue dans la session live qui reçoit aujourd'hui des musiciens qui ont arpenté les chemins du classique, du jazz, des musiques traditionnelles, des mondes improvisés. Il y a le quatuor Odeya et le violoniste Mathias Lévy qui est venu en solo, même si son projet autour de Bartok se joue en trio. Voyons ce que Monsieur Solerey Lamy va nous proposer. Bonsoir. Sur RFI dans la musique du monde.
Musique du monde. Sur RFI.
Mathias Lévy au violon, le nouvel album s'appelle Bartok Impression ou Bartok Impression, je ne sais pas comment vous voulez qu'on le prononce. Mathias, bonsoir.
Bonsoir.
Je vous présente le groupe Odeya qui va être
Chanté.
Votre colocataire
Chanté.
De plateau aujourd'hui. Après avoir rendu hommage à Stéphane Grappelli, vous êtes intéressé au cas de Béla Bartok. Qu'est-ce qui vous a intéressé chez Bartok?
Alors ce qui m'a intéressé chez Bartok, c'est que c'est le pionnier de l'ethnomusicologie, en plus d'être un des grands génies du XXe siècle.
Zoltán Kodály. Son professeur aussi était un pionnier.
C'était pas son professeur, c'était son contemporain.
D'accord.
Mais c'est vrai que c'est un peu lui peut-être qui l'a initié.
Un peu.
Bon, après c'est toujours des trucs qui peuvent se discuter, mais vous avez raison tout à fait de citer Kodály. Mais en tout cas, tous les deux, en tout cas, ont été les premiers à prendre conscience de l'importance des musiques traditionnelles, tout simplement. Ils étaient aussi à la bonne place, puis ils étaient très reconnus du point de vue de la culture institutionnelle et européenne reconnue. Et ils ont dit, avec cette place-là, nous, on considère qu'il y a quand même un truc sur lequel on ne s'est pas du tout attardé et dont on ne se pose même pas la question, c'est la musique que font les gens qui ne l'écrivent pas, et qui se jouent dans les campagnes et tout ça. Et donc, il a voyagé partout dans le monde pour collecter, puisque c'était les débuts de l'enregistrement,
Ou collecter sur des rouleaux ?
Écoute, collecter tout à fait sur des rouleaux. Il faut imaginer ce que c'est que de voyager à ce moment-là avec un gros magnétophone, aller voir des mecs, il est dans la Pampa, il est allé jusqu'en Kabylie pour voir des musiciens, enfin voilà, de la traditionnelle.
Et quelle était sa vision de la musique traditionnelle ? Ça n'avait rien d'exotique chez lui, parce que ça faisait partie d'un raisonnement nationaliste. Il ne faut pas oublier qu'il est né à la fin du 19e, il est mort en 45, il est hongrois.
Oui, mais pas que, parce que justement, il ne s'est pas du tout cantonné à ce qu'aurait pu être... un soutien à des théories nationalistes comme ça, parce qu'il est allé voir vraiment loin de chez lui.
Oui, il n'est pas resté chez lui. Ouais. Ce que je voulais dire, c'est qu'il n'a pas cantonné la musique folklorique à une forme d'exotisme. Il avait une autre manière de penser la musique.
Non, alors il y a une fascination, dans ce que j'ai compris et ce que j'ai lu, il y a une fascination de l'ordre, probablement un peu de l'exotisme, mais comme on a tous, quand on voit quelque chose qu'on ne connaît pas, on a une fascination pour l'étrange, le nouveau, le surprenant. Et après, au-delà de ça, par contre, il y a une vraie analyse. Il a intégré à la fois des choses entièrement relevées. Il a pu réarranger ou utiliser presque telles quelles. Et il est même allé jusqu'à utiliser des concepts qu'il a compris en regardant cette musique-là, notamment par rapport au chromatisme, à la modalité et au rythme, beaucoup.
Ouais. Alors ce projet que vous avez fait autour de l'œuvre de Bartók, vous ne l'avez pas fait tout seul. C'est un projet qui est né avec le contrebassiste hongrois Matthias Zandai. Est-ce que je prononce comme il faut ?
J'espère, je sais pas moi-même.
S-Z-A-N-D-A-I, tréma, avec deux points, donc ouais. J'imagine. Et puis un joueur de cymbalum qui est également hongrois, dont j'ai oublié le nom, vous allez me le rappeler.
Miklós Lukács.
Bravo, comme ça je suis tranquille au niveau de la prononciation. Vous avez pu bénéficier d'une résidence à Budapest Music Center,
tout à
c'est
fait.
Ça
c'est un projet qui a été produit par le Budapest Music Center, enfin, pas au départ. En fait, on a initié l'idée avec Matthias Zandai, qui vit à Paris, avec lequel on partage une grande complicité musicale. Et donc, en fait, à force de travailler des choses avec pas mal de complexité, comme on aime dans le jazz souvent, complexité rythmique, harmonique, tout ça, on s'est dit que Bartók, c'était un peu l'occasion de mettre tout ça en forme avec une thématique forte et qui faisait sens.
Je propose à Odeya de se mettre en place pour interpréter un titre du tout nouvel album. Odeya sur RFI dans la session live.
Need for liberty. Nit nit fali bloli alle fim my lord alle fim my lord.
Sur RFI dans les musiques du monde.
La session live. Musique du monde. Sur RFI.
Odeya, c'est Elsa Berger au chant, Lucien Alfonso au violon, Karsten Oschapfel à la guitare et Pierre-Yves Lejeune à la contrebasse. L'album s'appelle Parlamé. Le prochain concert, ce sera le 8 février à l'Espace culturel d'Avoine. C'est dans l'Indre-et-Loire. Alors, je sais que pour nos éditeurs d'Abidjan, de Dakar, de Phnom Penh, c'est pas très intéressant, mais pour vous, c'est très important. Alors, Odeya, deuxième album. On a à table Elsa Berger et Lucien Alfonso. On a commencé cette émission, enfin, je veux dire, le premier titre que vous avez interprété, c'est une reprise de Robert Wyatt. Alors, est-ce que vous faites un peu la bio de Robert Wyatt, Lucien, Elsa, Soft Machine, les années 70, la chaise roulante,
voilà,
la batterie.
Ça, c'est le début. Et puis, à un moment donné, il y a cet accident qui lui arrive.
Alors, c'est un batteur anglais qui a fait partie de la scène rock. Ouais, des années 70, avec un album sublime que je mets de côté, c'est Rock Bottom. On commence à chanter indien. Oui, voilà, ça fait partie de l'histoire de la musique.
Justement, cette reprise fait partie de l'album Rock Bottom, qui est vraiment la période où il s'est retrouvé en chaise roulante. Et Rock Bottom, voilà, il s'est retrouvé avec...
Il s'est pris pour un oiseau, donc il est parti...
Il a fait un sacré saut.
Parce qu'à l'époque, on prenait pas mal de drogue aussi, donc c'était compliqué, voilà. La vie. Donc...
Et c'est un morceau à Alifib, qui est un hommage à sa femme, Alfie, qui s'est beaucoup occupée de lui, qui a été un grand soutien et qui est toujours un grand soutien. Et donc, justement, comme il s'est retrouvé en chaise roulante, elle l'a nourri. On va dire la traduction, au milieu de tous ces mots inventés aussi qu'il a mis dans ce morceau, c'est « Alfie, mon garde-manger ».
C'est voilà. Une belle déclaration d'amour, après tout. Et alors, il a entendu cette version, ça lui a beaucoup plu, semble-t-il.
Oui, c'est un homme très gentil, en fait, et très accessible. Ça a été vraiment un grand plaisir de recevoir autant de messages, enfin vraiment adorables, quoi, et des mails. Et puis, j'ai même reçu une carte postale il n'y a pas longtemps, quand le disque est sorti, pour nous
ça
dire à quel point...
Ça existe encore, les cartes postales.
Non, mais en plus, il a fait une carte postale, c'est une œuvre, quoi.
Bien sûr.
C'est superbe.
Il vous a composé un morceau pour cet album ?
Alors non, en fait, ce qui s'est passé, c'est que quand on a fait cette reprise, moi, j'ai échangé beaucoup de mails avec lui. Il y avait des jours où il allait bien, des jours où il allait moins bien. Et un jour, je lui ai envoyé la demande. En fait, on espérait qu'il pourrait, d'une manière ou d'une autre, apparaître sur notre album, lui-même. Et j'ai fait cette demande certainement un jour où il n'était pas bien. Donc d'abord, il m'a dit, moi, c'est fini. Non, je ne fais plus rien. Tout ça, je ne peux rien faire pour vous. Vous êtes le futur et tout ça. Donc j'étais assez déprimée. Et puis le lendemain matin, j'avais un mail. Oublie complètement tout ce que je t'ai écrit hier. Je vous envoie deux morceaux. Vous faites ce que vous voulez avec. C'est des morceaux. Voilà. Il les avait enregistrés, mais il n'était pas allé, selon lui, au bout. Donc, dans ces deux morceaux, il y en avait un qui s'appelait « Ventilateur », mais qu'en fait, lui, il prononce « ventilateur ». Et c'est l'idée, évidemment, du ventilateur qui tourne. Et donc, Lucien a fait un arrangement de ce morceau qui apparaît aussi.
De ce ventilateur.
Il a fait un morceau du ventilateur qu'on fait apparaître dans ce disque aussi.
Alors vous, vous êtes marrante parce que vous venez de l'univers du cirque, vous êtes trapéziste.
En fait, oui, j'étais trapéziste. Je me suis arrêtée.
Trapéziste un jour, trapéziste toujours.
C'est possible, pour l'instant, c'est pas prévu. En fait, oui, j'étais trapéziste et à un moment donné, quand on a monté Odeya, j'ai senti qu'il se passait quelque chose aussi pour moi au niveau de la musique. Et petit à petit, j'ai pu laisser le cirque derrière moi. Après avoir commencé à 8 ans et demi, en avoir fait 20 ans, avoir beaucoup de problèmes corporels.
Lucien Alfonso, vous êtes le violoniste du groupe Odeya. Vous avez fait partie du groupe Tout Couleur Orchestra, qui est un orchestre qui s'est monté dans un bar.
En 2013,
Paris. Ouais.
Excusez-moi, je suis très intimidé, parce que je n'ai pas l'habitude de faire les plateaux avec... les violonistes que voilà, vous savez qu'entre violonistes des fois il y a beaucoup de concurrence.
Et alors avec celui-là, avec
Mathias
Lévy.
Je suis très admiratif de faire un plateau avec Mathias Lévy.
Ça va.
Que
pas
je
vous
félicite d'ailleurs pour son magnifique album autour de Bartók. Et oui, on a monté avec notre label Wapola. D'ailleurs, le disque d'Odea sort chez aussi ce label Wapola. Donc on avait monté ce groupe en 2013. C'était des jams qui commençaient le dimanche de minuit à 4h du matin.
Oh, ça va, fait là, vous avez largement distancé.
Oui,
hein,
voilà.
Pas des concerts de 12 heures.
Non, mais il faut savoir qu'à Paris, c'est quand même assez rare.
Ah oui, pas de problème avec les voisins.
Il y a eu beaucoup de problèmes avec les voisins, le bar a fermé après.
Et le groupe aussi.
Et le groupe, non, en fait,
PA Sonam. De midi à 16h.
Non, en fait, on a beaucoup tourné avec un choriste, Ousmane Kouyaté, Papus Diabaté, Kunkuri Ibrahima, le percussionniste de Bassissoko. Qui est décédé voilà, il y a 33 ans, il y a 2 ans, 3 ans. Et du coup, on a dû stopper cette aventure.
Et quand est-ce que vous avez monté Odeya?
Et Odeya, je crois que c'est un peu au même alentours.
Ouais.
C'était un peu trop chambriste pour moi, donc il fallait un peu plus de rock afrobeat.
Il y a du rock afrobeat dans Odeya?
Non, mais dans tout couleur, quoi, couleurs, un peu de contraste. Quoi.
Et Odeya, quoi, c'est en 2013-2014, quelque chose comme ça?
Oui, on a dû commencer, je pense qu'on a, commencé à travailler en 2012, à se rencontrer en 2012, et on a enregistré en 2013, et le premier disque est sorti en 2014.
Quel était l'esprit quand vous avez créé ce groupe, quand vous êtes réunis tous les quatre, vous avez dit qu'est-ce qu'on va faire comme le répertoire?
L'esprit, c'est que quand je connaissais Elsa, en fait, j'ai écouté le grain de sa voix, moi je jouais beaucoup de violon, j'avais pas changé. Et en fait, je me suis dit, elle chantait beaucoup à l'époque Barbara. Et je me suis dit, autour de ta voix, ça serait bien de mettre 3 cordes, quoi. Bon, c'est pas 3 cordes, c'est 3 instruments à cordes. Et donc, Carsten, avec sa pluralité, comme ça, jouait plein d'instruments de manières différentes. Et puis arrive avec son ouverture aussi, qui vient de musique classique, mais aussi des musiques électroniques. Donc, on s'est réunis. On a quand même vu un peu l'esthétique et ça l'a fait directement.
En fait, l'idée, c'est que moi, j'ai toujours... Je fais partie d'une famille de musiciens, j'avais plein de complexes et surtout, je rêvais de chanter de la musique du monde. Mais sachant que j'avais des origines principalement françaises, voire même parisiennes, je me sentais pas trop de mettre la jupe à fleurs et de faire du folklore alors que j'avais pas d'origine...
Ça fait penser à Ravel qui part en Espagne. Non, je déconne.
Et donc, en fait... L'idée était que je rêvais de chanter des chansons grecques, particulièrement à cette époque, que pendant 1 an et demi, je n'ai écouté que de la musique grecque. En fait, il y a une chanteuse qui s'appelle Charis Alexiou, qui est une des plus grandes. Ma mère, c'était très bizarre. Pourtant, ma mère n'est pas du tout comme ça. Mais je me suis dit, c'est ma mère. Conclusion, il fallait absolument que je chante des chansons qu'elle chantait. Et il y avait d'autres chansons aussi que je rêvais de chanter. Et c'est là que Lucien a eu aussi l'idée en me disant, mais si on fait un groupe avec que des cordes, un peu avec un univers chambriste, improvisé, avec des arrangements bien chiadés, je pense qu'on peut réussir à faire un mariage entre les musiques du monde que tu rêves de briques. Voilà, c'était l'idée.
Merci Elsa. On va voir si les arrangements et la production de Mathias est bien chiadée avec son tout nouvel album qui s'appelle Bartók Impression. Alors j'ai choisi la plage 3 qui est l'improvisation sur un thème de Room. On écoute ça? Allez. C'était un Noël roumain. Alors le titre exact, c'est Improvisation Romanismus Carols numéro 3 série 1. C'est extrait du tout nouvel album de Mathias Lévy, Bartók Impression. C'est un trio hein, sur l'album, rappelez donc.
Alors Mathias Sondai à la contrebasse et Miklós Lukács au cymbalum.
Qu'est-ce que vous avez choisi du répertoire de Bartók pour cet album?
Alors on a pris principalement des choses, des microcosmos et des... roumaine, c'est-à-dire des choses quand même qui se rapprochent un peu du format chanson, parce qu'il y a quand même plusieurs Bartók, et notamment il y en a un qui est extrêmement savant, et on n'est pas trop allé chercher dans celui-là, même on a pris un bout du concerto, mais toujours des choses qui rappelaient assez, de manière assez visible, des thèmes traditionnels et voilà, cette couleur-là, en fait.
Et vous avez choisi cette couleur-là parce que c'était plus facile à mettre en place?
Non, parce que moi, c'est le Bartok qui me touche le plus, en fait. Et c'était cet angle-là aussi, on n'est pas l'intercontemporain non plus, donc c'est ça qui était intéressant à explorer.
Le trio que vous avez formé avec vos amis, c'est-à-dire violon, contrebasse, cymbalum, ce ne sont pas les instruments que Bartok aurait utilisés à l'époque?
Alors, non. Mais ce qui est assez rigolo, c'est que c'est un peu le trio, on va dire, classique de musiciens tziganes de restaurant, en fait. Donc ça aussi, ça, du coup, ça donne une couleur que moi, je trouve très parlante pour cette musique-là. Et ce qui est intéressant, c'est que Miklos, le cymbalomiste, qui est un musicien assez extraordinaire, lui, c'est un fils de cymbalomiste tzigane hongrois, mais qui a fait des études classiques, enfin, que du classique jusqu'à 22 ans. Et après, il s'est mis au jazz. Donc, autant dire que le mec, il peut à peu près tout faire. Et là, sans avoir jamais travaillé, il a vraiment voilà, les trucs traditionnels et tout. Il a vraiment le son qu'on aime, qui est incroyable. Et puis, en même temps, il peut lire la musique, une musique très complexe. Il peut improviser extrêmement librement. Donc, c'est un peu la pierre angulaire du trio, on va dire.
Il vous ressemble, enfin, je veux dire, vous êtes un peu pareil, Mathias Lévy. Vous êtes très à l'aise, enfin, vous venez du classique, vous avez du jazz, vous avez fait du tzigane avec Norig, la chanteuse Norig.
Je laisse la responsabilité de vos paroles. Disons que lui, il a un truc.
Oh putain. Ah, le tireur, il a Star Shooter. Oui, disons, alors.
Il a un truc vachement.
J'assume pas du tout ce que j'ai resté en vie.
Il a un truc ancré familial, quoi, par rapport à la musique tzigane. Et ça, c'est assez irrattrapable, en fait, quand on a ça. Moi, mon truc familial, c'est plutôt le conservatoire, en fait.
Oui, mais de toute manière, les gens qui viennent du classique ou du jazz, je trouve, ont des possibilités illimitées pour peu que l'esprit. Enfin, à partir du moment où la technique est bien rentrée, est intégrée, et après, les gens qui se lâchent, c'est là où ça devient extrêmement intéressant. Ouais. Vous avez déjà travaillé pour le théâtre, pour la danse?
Ouais, j'ai beaucoup travaillé pour le théâtre. Ouais. Un peu trop, peut-être.
Je ne vous poserai pas d'autres questions.
Mais non, là, en ce moment, je fais une lecture. La lecture n'est pas un problème. Valère Novarina, je sais pas si c'est un grand auteur contemporain qui est toujours, qui était vraiment sur le haut de la vague il y a une dizaine d'années, quoi. Qui a travaillé beaucoup, creusé la lecture sur un petit livre qu'il a fait qui s'appelle Une langue inconnue, où il raconte le livre, c'est comment sa mère, qui avait eu un amant hongrois, leur chantait une chanson en hongrois qu'elle ne comprenait pas quand le père n'était pas là. Et de cette langue donc, inconnue, et pour lui, il a développé un goût comme ça pour le langage, en fait.
Dites-moi, est-ce que vous avez un langage inconnu qu'on a vu sur la généalogie de votre famille?
Non, ma mère me chantait des chansons françaises.
Lucien?
Ma mère à l'anglais, parce qu'elle est anglaise. Mon père, il chantait Brassens, coup Brassens.
Et qu'est-ce que vous chantez en anglais, votre mère?
Une chanson pour enfants, quoi.
D'accord. Je ne les connais pas bien, les chansons anglaises pour enfants, mais je ne vais pas vous demander d'en interpréter.
The bus goes round, 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 round. C'est ça que j'ai
compris. Alors, Odeya Session Live, et on a choisi Omaharajas. On dit ça comme ça?
Omaharajas.
Eh oui, ça vient d'où?
C'est grec.
C'est grec,
c'est
décidément.
Le Maharaja.
Ouais. Oui, d'accord. Ok, c'est parti pour le Maharaja. Odeya sur RFI dans la Session Live des musiques du monde.
vista brillandia, oh Maharaja.
Odéa sur RFI dans les musiques du monde.
Music du monde. La session live. Music du monde sur RFI.
Alors c'était l'histoire d'un maharaja qui faisait un tour avec son orchestre dehors et un harem totalement nu passe devant lui. Il chantait des chansons cochonnes en fait, Odéa.
Oui.
C'est ça.
Heureusement que c'est du grec.
Oui, heureusement. Mais enfin, il y a quand même des traductions. Le nouvel album s'appelle Parlami. Elsa Berger était au chant, Lucien Alfonso au violon, Karsten Holtzapfel, je ne suis pas sûre là non plus.
Holtzapfel,
d'accord. Allons-y.
Ja, der Gut.
Wie geht's. Guitare, donc, Monsieur Karsten et Pierre-Yves, le jeune à la contrebasse. Je ne savais pas, Elsa Berger, que vous aviez collaboré avec Tony Haimash, le pianiste et compositeur anglais.
Effectivement, oui.
Et vous avez travaillé sur quel projet ?
Chronique de résistance.
Chronique de résistance, il y a longtemps ?
Non, c'était, j'ai envie de dire 2015, je ne suis pas complètement sûre. C'était un album, un projet sur la résistance. Et donc, on était assez nombreux. Tony Haimash avait fait appel à moi, mais il y avait aussi le trio Journal Intime. Il y avait François Corneloup. Il y avait...
Enfin, Tony Haimash, on l'avait...
Oui.
Je crois même qu'il a accompagné Sinatra. Et moi, ce qui m'avait marqué dans sa carrière, c'était son engagement envers les populations amérindiennes. Il a fait des disques, c'était le projet Oyete. Et puis, il y en a eu deux autres avec des militants amérindiens.
Oui.
Quoi. Voilà.
C'était super intéressant. C'est un personnage, en fait. La musique était très compliquée. Et 5 jours intenses de travail pour finir par faire un live avec tout ce monde. Et toutes ces chansons qu'il fallait incarner. On a dû faire aussi un périple à Oradour, tous ensemble.
Oradour-sur-Glane ?
Oradour...
Le village en Dordogne ?
Là où il y a eu des massacres terribles.
En fait, c'est le village en Dordogne qui était laissé en l'état.
Et exactement. Brûlé.
Oui, tous les gens ont été enfermés. C'est quand les Allemands sont partis, ils ont enfermé tout le village dans une église.
Ils ont
fait cramer. Et le village est resté en l'état, que les gens sachent comment ça s'est passé. Si vous allez à Oradour-sur-Glane aujourd'hui, vous verrez des vieilles voitures, etc.
Tout est
cramé et tout est resté.
Et c'est intact. Et c'était... Avant qu'on aille travailler, on a fait cette visite aussi, tous ensemble, à toute l'équipe. Et après, on est allé bosser.
Oui.
Donc, au moins, on était tous dans le jus, quoi.
Et avant d'enregistrer le deuxième album de Deya, où est-ce que vous les avez emmenés, vos musiciens ? Pas d'Oradour-sur-Glane ?
On n'a pas eu ce privilège.
C'est pas un privilège, hein. C'est un moment d'histoire, c'est particulier.
Oh, c'était très fort.
Cet album, oui, bah oui, que disent tous les gens qui y vont, forcément. on a l'histoire en face de soi, tout ce qui était dans les livres et au cinéma, on l'a sous la main, on sait que c'est vivant, que ça existait, quoi.
Ouais.
Vous avez enregistré cet album, le nouveau, le Parlami, vous l'avez enregistré en France ou vous...
On a fait ça pas loin de chez nous. C'était plus pratique. En plus, moi, j'étais en époque, donc j'ai enregistré cet album.
Vous êtes maman maintenant.
Oui,
donc.
Je suis maman maintenant, mais à l'époque, je ne l'étais pas. Il était dans mon ventre. Donc, c'est un album double bébé.
Fille ou garçon ?
C'est un garçon.
Et ce garçon, maintenant, évidemment, est féru de musique. Parce qu'on entend parler pendant 9 mois à Trapeau, le placenta, etc. Il paraît que ça marque.
Bah, oui, il réagit beaucoup. D'ailleurs, il réagit beaucoup aux chansons que j'ai chantées beaucoup dans cette période, dont celle qu'on vient d'interpréter, le Maharaja. Et ça réagit beaucoup. Et puis, c'est même problématique parce que tous les livres musicaux, à partir du moment où je veux lui enlever, c'est la cata.
Et pour Noël, qu'est-ce qu'il aura ? Une crécelle. J'espère que vous n'avez pas trop de voisins. Je propose à Mathias de se remettre en place pour un nouveau morceau, non pas improvisé, interprété dans le Grand Live. J'avais choisi les improvisations on Romanian Folk Dances numéro 4. C'est parti, Mathias Lévy.
Thank you.
Mathias Lévy sur RFI dans les musiques du monde.
La session live. Sur RFI.
En fait, ça vous sert à rien les partitions, Mathias Lévy.
Oui,
vous avez les yeux fermés.
Pas du tout regardé.
Vous auriez pu vous mettre au clair de la lune ou la souris verte, c'était pareil.
Oui, hein. Vous pouvez peut-être faire un petit commentaire là sur juste ce que je viens de faire, c'est que c'est un morceau un peu peut-être phare du répertoire, parce que ça c'est un, on va dire, c'est un tube de Bartok qu'on joue en général au conservatoire pour rentrer en troisième cycle par exemple, en moyen 2. C'est extrait des danses roumaines. Et en fait, en faisant un petit arrangement avec le trio de ça, Miklos, justement le fameux cymbalomiste, nous a montré le rythme originel du morceau. Donc là, j'ai fait l'exposé à la Bartok. Et après, j'ai fait avec la rythmique, la vraie rythmique tzigane, que d'ailleurs, j'ai toujours pas réussi à comprendre, à la compter. Cette fameuse rythmique, ça fait partie des rythmes impairs, mais tellement impairs qu'on ne sait même pas combien, finalement. C'est les rythmes bancals, un peu. Et voilà, donc c'est rigolo. Ça fait, ce morceau, il fait, là, dans son arrangement, il fait bien le lien. Il symbolise bien le travail qu'on a fait dans ce disque.
En tout cas, vous ne ménagez pas votre violon. J'ai vu la tonne de colophane sur la bête. Bravo. Le chevalet tient encore, mais on se demande comment. Est-ce que vous avez déjà essayé de jouer du violon un peu comme les autodidactes, comme les tziganes? On avait reçu des groupes qui venaient de Roumanie. Alors, il y en avait un, il y a très très longtemps, qui avait mis une corde autour des cordes et en fait avait remplacé l'archet, joué un petit peu comme une machine à laver. C'est très étrange.
Ouais, je suis pas mal à ça. Ça s'appelle des modes de jeu.
Plus voilà, joli les modes de jeu que la machine à laver. Vous avez raison. Donc, il avait un autre mode de
jeu. Voilà, c'était chercher des façons de faire sonner le violon différemment. Lucien, il a fait ça super tout à l'heure avec le AODA. Et j'aime bien essayer de faire ça aussi.
Qu'est-ce que vous aimez faire, vous, Lucien, avec votre violon?
C'est très dur. Qu'on me dit vraiment exploiter la caisse et ensuite jouer avec des modes, on dit flautando, par exemple, plus flottant. Si on joue plus près du chevalet. Ça peut, si on n'appuie pas trop, ça peut donner justement des notes avec des harmoniques qui apparaissent comme ça. On peut jouer sur la touche aussi, sous le tasto. Sur la touche, ça va donner un son beaucoup plus feutré. Après, on peut jouer aussi comme une guitare, le violon, un peu comme une mandoline.
Moi, j'ai fait une vidéo Facebook où je jouais avec des baguettes chinoises sur mon violon.
Ça marche très bien.
Et sur le cymbalum, l'archet, c'est bien aussi?
Non, sur le cymbalum, l'archet, ça peut marcher, il n'y a pas de raison.
Non.
Hein.
Il faut tout essayer. Vous savez ce qu'on a vu dans ce studio. Sur le nouvel album de Deia, Parlami, il y a quelques reprises. On a parlé largement de Robert Wyatt en tout début d'émission. Il y a aussi Sauf Erreur du Cosma, du Tinor aussi. Et j'ai vu qu'il y avait du Philippe Sard, Jean-Loup Dabadie, avec la chanson la plus triste du cinéma français, c'est la chanson d'Hélène.
Ouais.
Vous étiez amoureuse de Romy Schneider ou de Michel Piccoli ou de Claude Sautet quand vous étiez petite?
En fait, j'ai un petit souci, c'est que dès qu'il y a une chanson que je chante toute la journée, que j'en fasse quelque chose. Parce que, en fait, sinon, elle ne me lâche pas. Et celle-là ne me lâchait pas, jusqu'à ce qu'on en fasse un arrangement avec Odeya et qu'elle puisse enfin être posée quelque part où elle arrête de me hanter. Surtout qu'elle est super triste. Donc, chez moi, on finissait par me dire « Mais c'est pas possible, arrête de chanter cette chanson. Ça veut dire que t'es super triste. » Voilà. Non.
C'est une chanson qui a été un peu la bande-son des années 70 en France. C'est donc très lié, évidemment, au réalisateur Claude Sautet, avec des acteurs qui formaient une fille. Et là, on parle évidemment de Piccoli et de Romy Schneider. On pense aux choses de la vie. Oui. On peut penser aussi à Max et les Ferrailleurs, mais je pense que c'est plus les choses de la vie. La chanson d'Hélène, c'est l'un des titres que vous pouvez retrouver sur le tout nouvel album de Deia qui s'intitule « Par l'ami ». Et l'autre invité de l'émission, c'était Mathias Lévy pour Bartok Impression. Alors vous êtes très gentil, enfin vous êtes tout à fait charmant, parce que vous êtes... Je vous aime. Vous avez été d'accord pour interpréter un morceau ensemble, deux violonistes, Lucien et Mathias. Ça va Lucien, vous respirez
ça
encore?
Ça s'est bien passé, ça a été dur. Ça a été dur. Quand j'ai su qu'il est arrivé, j'ai eu une tachycardie, mais bon, c'est
Elsa, sur quel morceau êtes-vous tombé d'accord alors?
Thalassa Kimu.
C'est un titre à vous ?
C'est un titre de notre premier album qui s'appelle Escale.
Escale et Palakikamu, ça veut dire petite mer. Oui, je sais, riez. C'est le seul moyen que j'ai trouvé pour être sympathique. C'est de me planter dans les mots, comme ça les gens se sentent plus intelligents que moi et ils ont de la sympathie.
C'est très malin, c'est très intelligent.
Ça fait 30 ans que j'ai plein de potes.
Je vais y penser.
Donc Mathias, alors comment vous vous êtes senti sur ce titre ? C'était moins difficile que Bartok ?
Ça ressemblait à un morceau serbe que je joue avec Norik, donc je me suis un peu... c'est la même tonalité et le même rythme, alors je me suis un peu débrouillé avec ça.
Eh bien, merci infiniment. De l'autre côté de la vitrine, il y avait Taguim Fatraoré, Laurie Plisson et Jérémy Besset. Bonne soirée, bonne journée, comme vous voulez en temps universel. Applaudissez-vous, vous étiez très bien.
Bravo.
Merci.